From the conference center at Temple...
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 120e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera la session de la prêtrise ce soir.
We welcome you, brethren. To the priesthood session of the
Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 120e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young sous la direction de Ronald Staley avec les Christiansen à l'orgue. Nous commencerons cette session de la prêtrise en écoutant le chœur chanter « Notre Dieu nous a tant aimés ». Ensuite, Keith K. Hilbig, des 70, fera la prière d'ouverture.
Thank you.
Dear gracious Heavenly Father,
notre cher Père céleste, plein de grâce et de bonté, nous sommes rassemblés mondialement, nous détenteurs de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek. Nous sommes reconnaissants de ce privilège et t'exprimons notre gratitude et te demandons de pouvoir être attentifs, chacun d'entre nous, pour bien écouter tous ceux qui se sont préparés, afin que nous écoutions avec attention tes serviteurs, afin que nous puissions discerner par le pouvoir du Saint-Esprit et en recevant des instructions directement de ton prophète, le président Monson, et des apôtres vivants de cette dispensation, que nous puissions y prêter attention. Nous te remercions de ta bonté envers nous. Nous t'en rendons grâce, Père, et t'exprimons à nouveau toute l'appréciation que nous avons pour toi, bien humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now sing.
Le chœur va maintenant interpréter « Bien choisir ». Après le cantique d'Aline H. Hawkes du Collège des Douze Apôtres, nous adressera la parole, après quoi nous entendrons Ronald A. Rasband de la présidence des 70. Il sera suivi par David L. Beck, président général des Jeunes Gens.
Lord,
À notre époque de tourmente mondiale, de plus en plus de gens qui ont la foi se tournent vers le Seigneur pour recevoir des bénédictions de réconfort et de guérison. Je vais parler à cette assemblée de détendeurs de la prêtrise de la guérison des malades, par la médecine, par les prières de la foi et par les bénédictions de la prêtrise. Les saints des derniers jours croient en l'utilisation des meilleures connaissances et techniques scientifiques existantes. Nous utilisons la nutrition, l'exercice et d'autres pratiques pour préserver notre santé et nous faisons appel à des professionnels de la guérison comme les médecins et les chirurgiens pour nous rendre la santé. Le recours à la médecine n'est pas incompatible avec nos prières de la foi et notre confiance dans les bénédictions de la prêtrise. Lorsqu'une personne demandait une bénédiction de la prêtrise, Brigham Young lui demandait « Avez-vous pris des remèdes ?» Si quelqu'un lui répondait qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il souhaitait que les anciens lui imposent les mains et qu'il avait la foi qu'il guérirait, le président Young lui répondait, je cite, « C'est très illogique par rapport à ma foi. Si nous sommes malades et que nous demandons au Seigneur de nous bénir et de faire pour nous tout ce qui est nécessaire, si je comprends bien l'évangile de salut, je pourrais tout aussi bien demander au Seigneur de faire en sorte que mon blé et mon maïs poussent sans que je laboure et sans que je sème. » Il me semble logique d'utiliser tous les remèdes qui sont portés à ma connaissance et puis de demander à mon Père Céleste de sanctifier ce remède pour qu'il guérisse mon corps. Fin de citation. Bien entendu, nous n'attendons pas d'avoir épuisé toutes les autres méthodes pour prier avec foi ou donner des bénédictions de prêtrise pour la guérison. En cas d'urgence, les prières et les bénédictions viennent d'abord. Le plus souvent, nous faisons tout en même temps. Cela concorde avec l'enseignement que nous trouvons dans les Écritures, qui est que nous devons toujours prier et faire tout avec sagesse et ordre. Nous savons que la prière de la foi, faite seule ou chez soi, ou dans des lieux de culte, peut être efficace pour guérir les malades. De nombreuses Écritures parlent du pouvoir de la foi dans la guérison d'un malade. L'apôtre Jacques a dit que nous devons prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Et il a ajouté que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque la femme qui avait touché Jésus a été guérie, il lui a dit « Ta foi t'a guérie ». De même, le Livre de Mormon nous enseigne que le Seigneur agit par le pouvoir selon la foi des enfants des hommes. Une récente enquête nationale a révélé que près de 8 Américains sur 10 pensent que des miracles se produisent encore de nos jours, comme dans les temps anciens. Un tiers des personnes interrogées ont dit qu'elles ont bénéficié d'une guérison divine ou en ont été témoins. De nombreux saints des derniers jours ont connu le pouvoir de la foi dans la guérison des malades. Nous entendons également des histoires de ce genre parmi les membres d'autres églises qui ont la foi. Au Texas, un journaliste a décrit l'un de ces miracles. Quand une fillette de 5 ans s'est mise subitement à respirer avec difficulté et à avoir de la fièvre, sa femme et lui l'ont immédiatement conduite à l'hôpital. Le temps d'y arriver, ses reins et ses poumons avaient cessé de fonctionner. Sa fièvre était montée à 41,7 et son corps était écarlate et couvert de lésions violettes. Les docteurs ont dit qu'elle mourait du syndrome du choc toxique, de cause inconnue. Quand la famille et les amis ont appris la nouvelle, les croyants se sont mis à prier pour elle et un service de prière spécial a eu lieu dans leur église protestante à Waco, Texas. Elle est subitement et miraculeusement revenue des portes de la mort et a pu quitter l'hôpital en un peu plus d'une semaine. Son grand-père a écrit « Elle est la preuve vivante que Dieu exauce les prières et fait des miracles. » Il est vrai, comme le Livre de Mormon l'enseigne, que Dieu se manifeste par le pouvoir du Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui Oui, à toutes les nations, tribus, langues et peuples, accomplissant de grands miracles parmi les enfants des hommes selon leur foi. À cette assemblée d'adultes qui détiennent la prêtrise de Melchizedek et de jeunes gens qui recevront bientôt ce pouvoir, je vais parler en particulier des bénédictions de guérison qui font appel au pouvoir de la prêtrise. Nous avons ce pouvoir de la prêtrise et nous devrions tous être prêts à l'utiliser convenablement. Le nombre croissant de catastrophes naturelles et de difficultés financières montre que nous aurons bien plus besoin de ce pouvoir à l'avenir que par le passé. De nombreuses Écritures nous enseignent que les serviteurs du Seigneur imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il se produit des miracles lorsqu'on utilise l'autorité de la prêtrise pour bénir les malades. J'ai vu ces miracles. Dans ma jeunesse et à l'âge adulte, j'ai vu des guérisons aussi miraculeuses que celles que l'on trouve dans les Écritures, et beaucoup d'entre vous aussi. La bénédiction des malades par l'autorité de la prêtrise comporte 5 parties. 1. L'onction. 2. Le scellement de l'onction. 3. La foi. 4. La bénédiction. Et 5. La volonté du Seigneur. L'Ancien Testament parle souvent de l'onction d'huile comme d'une partie d'une bénédiction donnée par l'autorité de la prêtrise. Les onctions avaient pour but de sanctifier, et on peut peut-être également la considérer comme le symbole des bénédictions déversées du ciel à la suite de cet acte sacré. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que les apôtres de Jésus oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le livre de Jacques nous montre le lien existant entre le rôle de l'onction et les autres éléments d'une bénédiction pour la guérison donnée par l'autorité de la prêtrise. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Quand quelqu'un a été oint par l'autorité de la prêtrise de Melchizedek, l'onction est scellée par cette même autorité. Sceller quelque chose signifie le confirmer, le faire agir pour le but dans lequel il a été prévu. Lorsque les anciens oignent un malade et scellent l'onction, ils ouvrent les écluses des cieux pour que le Seigneur déverse les bénédictions qu'il destine à la personne affligée. Brigham Young a dit, je cite, « Lorsque j'impose les mains au malade, je m'attends à ce que le pouvoir et l'influence de Dieu passent par moi jusque dans le malade et que la maladie s'en aille. Lorsque nous sommes prêts, lorsque nous sommes des vases saints devant le Seigneur, un flot de puissance peut passer du Tout-Puissant par le tabernacle de celui qui administre dans l'organisme du patient et les malades sont guéris. » Fin de citation. Bien que nous connaissions de nombreux cas où des personnes bénies par l'autorité de la prêtrise ont été guéries, nous parlons rarement de ces guérisons dans nos réunions publiques parce que la révélation moderne nous met en garde de ne pas nous vanter de ces choses ni d'en parler devant le monde, car ces choses nous sont données pour notre profit et pour le salut. La foi est essentielle à la guérison par les pouvoirs du ciel. Le livre de Mormon nous enseigne même que, s'il n'y a pas de foi parmi les enfants des hommes, Dieu ne peut faire aucun miracle parmi eux. Dans son fameux discours sur la bénédiction des malades, Spencer W. Kimball a dit, je cite, « Nous sous-estimons souvent le besoin de la foi. Le malade et la famille semble souvent dépendre entièrement du pouvoir de la prêtrise et du don de guérison qu'ont les frères qui donnent la bénédiction, du moins l'espèrent-ils, alors que la plus grande responsabilité repose sur celui qui reçoit la bénédiction. L'élément le plus important est la foi du malade lorsqu'il est conscient et responsable. Le maître a si souvent répété la phrase « Ta foi t'a guéri, qu'elle en est presque devenue un refrain. Fin de citation. Le président Kimball a même dit que des bénédictions trop fréquentes peuvent indiquer un manque de foi ou que le malade essaie de confier la responsabilité du développement de la foi aux anciens au lieu de la conserver. Il a parlé d'une sœur fidèle qui a reçu une bénédiction de la prêtrise. Lorsque le lendemain, on lui a demandé si elle voulait une autre bénédiction, elle a répondu « Non, j'ai reçu l'onction et la bénédiction. L'ordonnance a été accomplie. C'est à moi maintenant de mériter ma bénédiction par ma foi. » L'autre partie de la bénédiction de la prêtrise, ce sont les paroles que l'ancien prononce après le scellement de l'onction. Ces paroles peuvent être très importantes, mais leur contenu n'est pas essentiel et elles ne sont pas conservées dans les registres de l'Église. Dans certaines bénédictions de la prêtrise, par exemple une bénédiction patriarcale, les paroles prononcées constituent la bénédiction. Mais dans une bénédiction de guérison, ce sont les autres parties de la bénédiction, l'onction, le scellement, la foi et la volonté du Seigneur qui constituent les éléments essentiels. L'idéal serait que l'ancien qui donne la bénédiction soit tellement en accord avec l'Esprit du Seigneur qu'il connaît et révèle la volonté du Seigneur dans la formulation de la bénédiction. Brigham Young a enseigné aux détenteurs de la prêtrise, « Il vous appartient et c'est votre devoir de vivre de manière à savoir quand le Seigneur vous parle et quand la volonté du Seigneur vous est révélée. » Lorsque cela se produit, la bénédiction s'accomplit littéralement et miraculeusement. Lors d'occasions particulières, j'ai ressenti la certitude de cette inspiration en donnant une bénédiction de guérison et j'ai su que ce que je disais était la volonté du Seigneur. Cependant, comme la plupart des frères qui participent à des bénédictions de guérison, j'ai souvent eu du mal à savoir avec certitude ce que je devais dire. Pour de multiples raisons, chaque ancien connaît des moments où son niveau de sensibilité au murmure de l'esprit est plus ou moins élevé. Chaque ancien qui donne une bénédiction est soumis à l'influence de ce qu'il voudrait pour le malade. Chacune de ces imperfections mortelles peut influencer ce que nous disons. Heureusement, les paroles de la bénédiction ne sont pas essentielles à la guérison. Si la foi est suffisante, et si Dieu le permet, le malade guérira ou sera béni que le frère qui parle dise ces mots ou non. Inversement, si le frère qui donne la bénédiction se laisse influencer par son désir ou son inexpérience et donne des commandements ou des bénédictions qui vont au-delà de ce que le Seigneur choisit d'accorder selon la foi de l'intéressé, ces paroles ne s'accompliront pas. Par conséquent, aucun ancien ne devrait jamais hésiter à donner une bénédiction de guérison par peur de ne pas savoir quoi dire. Les paroles prononcées dans une bénédiction de guérison peuvent édifier et stimuler la foi des personnes qui les entendent. Mais l'effet de la bénédiction dépend de la foi et de la volonté du Seigneur, non des paroles prononcées par l'ancien qui donne la bénédiction. Vous, jeunes gens, et vous, frères plus âgés, veuillez prendre note de ce que je vais dire maintenant. Lorsque nous exerçons le pouvoir indéniable de la prêtrise de Dieu et que nous conservons précieusement la promesse qu'il entendra et exaucera la prière de la foi, nous devons toujours nous souvenir que la foi et le pouvoir de guérison de la prêtrise ne peuvent avoir de résultat que ce qui soit contraire à la volonté de celui à qui appartient la prêtrise. Ce principe est enseigné dans la révélation commandée aux anciens de l'Église d'imposer les mains aux malades. La promesse du Seigneur est que celui qui a foi en lui pour être guéri et dont la mort n'est pas arrêtée sera guéri. De même, dans une autre révélation moderne, le Seigneur déclare que lorsque quelqu'un demande conformément à la volonté de Dieu, cela se passe comme il le demande. Tout cela nous apprend que même les serviteurs du Seigneur exerçant son pouvoir divin pour quelqu'un qui a suffisamment de foi pour être guéri ne peuvent donner une bénédiction de la prêtrise conduisant à la guérison de la personne si cette guérison n'est pas la volonté du Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, nous connaissons son grand amour et sa connaissance totale de ce qui est le mieux pour notre bien-être éternel et nous lui faisons confiance. Le premier principe de l'Évangile est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et la foi signifie la confiance. J'ai ressenti cette confiance lors d'un discours que mon cousin a fait lors des funérailles d'une adolescente morte d'une maladie grave. Il a dit ces mots qui m'ont d'abord étonné et puis m'ont édifié. Je cite, « Je sais qu'il était de la volonté du Seigneur qu'elle meure. Elle a été bien soignée par les médecins. Elle a reçu des bénédictions de la prêtrise. Son nom figurait sur la liste de prières au temple. Des centaines de prières ont été faites pour sa guérison, et je sais qu'il y a assez de foi dans cette famille pour qu'elle soit guérie s'il n'y avait pas eu la volonté de Dieu de la rappeler maintenant à lui. » Fin de citation. J'ai ressenti cette même confiance dans les paroles du père d'une autre fille précieuse emportée par le cancer pendant son adolescence. Il a dit, « Notre famille a foi en Jésus-Christ. Notre foi ne dépend pas de ce qui adviendra. » Ces enseignements me semblent vrais. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour la guérison d'un être cher. Et puis, nous faisons confiance à Dieu pour ce qui adviendra. Je témoigne du pouvoir de la prêtrise de Dieu, du pouvoir de la prière de la foi et de la véracité de ses principes. Je témoigne par-dessus tout du Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les serviteurs, dont la résurrection nous donne l'assurance de l'immortalité et dont l'expiation nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Good evening, my dear brethren of the priest.
Bonsoir, mes chers frères de la prêtrise. Ce soir, je vais parler du service missionnaire. Je m'adresse à la grande armée de jeunes gens qui détiennent la prêtrise d'Aaron, rassemblés dans le monde entier, et à leur père, à leur grand-père, et aux dirigeants de la prêtrise qui veillent sur eux. L'œuvre missionnaire est un sujet qui me tient à cœur, comme pour chaque membre des 8 collèges de 70 que le Seigneur a désigné pour aller devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. L'œuvre missionnaire est la force vitale de l'Église et une bénédiction qui sauve la vie de tous les gens qui acceptent son message. Lors de son ministère parmi les hommes, le Maître a appelé des pêcheurs de Galilée à laisser leur filet et à le suivre en leur disant, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Le Seigneur a appelé des hommes humbles, afin que par eux, d'autres entendent les vérités de l'Évangile et viennent à lui. En juin 1837, Joseph Smith, le prophète, a appelé Heber C. Kimball, un apôtre, à partir en mission en Angleterre. Frère Kimball a reçu son appel lorsque tous deux étaient dans le temple de Kirtland et que Joseph a dit avec l'autorité divine, « Frère Heber, l'Esprit du Seigneur m'a murmuré que mon serviteur Heber ait en Angleterre proclamé mon évangile et ouvrir la porte du salut à cette nation. » Ce murmure de l'Esprit est une illustration de la façon dont les serviteurs du Seigneur reçoivent l'appel pour envoyer des missionnaires dans leur champ de mission. Aujourd'hui, les missionnaires désignés par le Seigneur vont deux par deux, porter le même message, avec le même appel divin reçu par l'intermédiaire du prophète de Dieu. Notre prophète Thomas S. Monson a dit des personnes appelées à servir, « Les occasions missionnaires de toute une vie sont à vous. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Vous avez l'honneur de ne pas être spectateur, mes acteurs sur la scène du service de la prêtrise. La scène est à vous, mes chers garçons de la prêtrise d'Aaron. Êtes-vous prêts et disposés à remplir votre rôle? Le Seigneur a besoin que chaque jeune homme capable se prépare et se réengage dès ce soir à être digne d'un appel en mission venant du prophète de Dieu. Je me souviens avec émotion de la grande joie de toute notre famille quand deux de nos enfants ont reçu leur appel à partir en mission à plein temps. Nous étions remplis d'enthousiasme et d'impatience quand chacun a ouvert sa lettre spéciale du prophète de Dieu. Notre fille Janessa a été appelée à œuvrer dans la mission de Détroit au Michigan et notre fils Christian dans la mission sud de Moscou en Russie. Ce sont des expériences qui remplissent d'humilité et d'émotion à la fois. Quand Sœur Razban et moi avons eu l'honneur de présider la mission Nord de New York il y a plusieurs années, je m'émerveillais devant les missionnaires qui arrivaient à New York. Quand je les recevais en entretien le premier jour de leur mission, je ressentais une profonde gratitude pour chacun d'eux. Je sentais que leur appel dans notre mission était voulu par Dieu pour eux, ainsi que pour moi, leur président de mission. Lorsque nous avons été relevés, le président Inclee m'a appelé pour être 70 dans l'Église. L'une de mes premières formations d'autorité générale consistait à assister les membres des 12 quand ils affectaient les missionnaires à l'une des 300 et quelques missions de cette grande Église. Avec l'encouragement et la permission du président Eyring, je vais vous raconter une expérience qui me tient à cœur, une expérience que j'ai eue avec lui il y a plusieurs années quand il était membre du Collège des 12. Chaque apôtre détient les clés du royaume et les exerce sous la direction et à la demande du président de l'Église. Frère Eyring était en train d'affecter des missionnaires à leur champ de mission et j'avais été invité à l'observer dans le cadre de ma formation. J'ai rejoint Frère Eyring tôt un matin dans une pièce où l'on avait installé plusieurs grands écrans d'ordinateur pour la session. Il y avait également un membre du personnel du département missionnaire à qui l'on avait demandé de venir ce jour-là. Nous nous sommes d'abord agenouillés pour prier. Je me souviens des paroles très sincères de Frère Eyring demandant au Seigneur de le bénir pour qu'il sache parfaitement où les missionnaires devaient être affectés. Le mot « parfaitement » en disait long sur la foi dont Frère Eyring faisait preuve ce jour-là. La session a commencé comme ceci. La photo d'un futur missionnaire apparaissait sur l'un des écrans d'ordinateur. À chaque photo qui apparaissait, j'avais l'impression que le missionnaire se trouvait dans la pièce avec nous. Puis Frère Eyring saluait le missionnaire de sa voix gentille et attachante. « Bonjour, Frère Ryer. Au bonjour, Sœur Young. Comment allez-vous aujourd'hui? » Il m'a dit qu'il aimait penser à la mission d'où les missionnaires reviendraient. Cela l'aidait à savoir où affecter chaque missionnaire. Puis Frère Eyring étudiait les commentaires des évêques et des présidents de pieux, le dossier médical et d'autres points concernant le missionnaire. Ensuite, il consultait un autre écran sur lequel figuraient les régions et les missions du monde entier. Finalement, en suivant l'inspiration de l'Esprit, il affectait les missionnaires à un champ de mission. Les autres apôtres du Seigneur m'ont appris qu'ils appliquaient cette méthode générale chaque semaine pour désigner les missions du monde entier dans lesquelles des dizaines de missionnaires vont œuvrer. Ayant fait une mission dans mon propre pays, dans la mission des États de l'Est, il y a un certain nombre d'années, j'ai été profondément touché par cette expérience. Ayant également été président de mission, j'étais reconnaissant d'avoir reçu un autre témoignage que les missionnaires que j'accueillais à New York m'étaient envoyés par révélation. Après avoir affecté quelques missionnaires, Frère Eyring s'est tourné vers moi alors qu'il méditait sur un missionnaire et a dit « Alors, Frère Razband, où pensez-vous que missionnaire devrait aller ?» J'étais surpris. Je lui ai répondu tout bas que je ne savais pas et que je ne savais pas comment je pourrais le savoir. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a simplement dit, « Frère Razban, soyez plus attentif et vous saurez, vous aussi. » Alors, j'ai rapproché ma chaise de Frère Ehring et de l'écran, et j'ai fait beaucoup plus attention. Par deux ou trois fois au cours de la session, Frère Ehring s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Eh bien, Frère Rasben, où pensez-vous que ce missionnaire devrait aller ?» Je donnais le nom d'une mission, et Frère Ehring me regardait pensivement et répondait, « Non, ce n'est pas celle-là. »
He would then continue to assign.
Puis, en suivant l'inspiration, il continuait d'affecter les missionnaires où il avait ressenti qu'il devait aller. Alors que nous approchions de la fin de la session, la photo d'un missionnaire est apparue à l'écran. J'ai eu le sentiment très fort, le plus fort de la matinée, que ce missionnaire devait être envoyé au Japon. Je ne savais pas si Frère Ehring allait m'interroger pour celui-ci. Mais chose étonnante, c'est ce qu'il a fait. Je lui ai répondu timidement et humblement, « Au Japon ?» Frère Ehring a répondu immédiatement, « Oui, regardons. Les missions du Japon sont apparues sur l'écran. J'ai su instantanément que le missionnaire devait aller dans la mission de Sapporo. Frère Ehring ne m'a pas demandé le nom exact de la mission, mais il a affecté ce missionnaire à la mission de Sapporo. Au fond de moi, j'étais très touché, sincèrement reconnaissant que le Seigneur m'ait permis de recevoir l'inspiration pour savoir où ce missionnaire devait aller. À la fin de la réunion, Frère Ehring m'a rendu témoignage de l'amour du Sauveur pour chaque missionnaire chargé d'aller dans le monde prêcher l'Évangile rétabli. Il a ajouté que c'est grâce au grand amour du Sauveur que ses serviteurs savent où ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, ainsi que ces missionnaires d'âge mûr et ces couples missionnaires merveilleux doivent œuvrer. Ce matin-là, j'ai acquis un nouveau témoignage que chaque missionnaire appelé dans cette église et affecté ou réaffecté dans une mission l'est par la révélation que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à l'un de ses serviteurs. Je conclue mon discours par les paroles du Seigneur aux frères Whitmer, qui ont joué un grand rôle au début du rétablissement. Ils faisaient partie des témoins qui ont vu les plaques d'or, et le témoignage qu'ils ont signé se trouve au début de chaque exemplaire du Livre de Mormon. Ils faisaient partie du premier groupe de missionnaires appelé par un prophète de Dieu en 1829 pour prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dans la préface de la section 14 des Doctrines et Alliances, il est dit « Trois des fils Whitmer, ayant chacun reçu le témoignage de l'authenticité de l'œuvre, commencèrent à se préoccuper vivement de la question de leur devoir personnel. Le Seigneur a dit à John et à Peter Whitmer, « Car de nombreuses fois, tu as désiré savoir de moi ce qui aurait le plus de valeur pour toi. » Je suppose que beaucoup d'entre vous, jeunes gens, se sont posés la même question. Voici la réponse du Seigneur. Et maintenant, voici, je te dis que ce qui aura le plus de valeur pour toi sera de prêcher le repentir à ce peuple, afin de m'amener des âmes, pour que tu te reposes avec elles dans le royaume de mon Père. À cette période de votre vie, un appel à partir en mission, mes jeunes amis, un appel en mission venant du Seigneur est le travail le plus important que vous pouvez faire. Préparez-vous maintenant, menez une vie juste, apprenez auprès de votre famille, de vos dirigeants de l'Église. Joignez-vous à nous pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Acceptez votre appel divin dans une si grande cause. C'est là mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est un honneur pour moi de m'adresser ce soir aux extraordinaires jeunes gens de l'Église. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entre vous dans le monde entier. Votre enthousiasme est contagieux. Vous relevez vos défis avec une force et un courage extraordinaires. Sachez combien je vous aime et combien j'ai confiance en vous. vous inspirez bien plus que vous ne l'imaginez les gens qui vous entourent. Écoutez ce que dit un jeune homme qui n'est pas de notre religion, lorsqu'il essaye de décrire son ami, qui détient la prêtrise d'Aaron. Je remarque vraiment quelque chose de différent chez Louis. Il ne ressemble pas du tout aux autres gens. C'est quelque chose qui se voit en lui. Je ne sais même pas ce que c'est, mais il est différent de tous les autres. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qu'on ressent. Il y a quelque chose de très important qui vous distingue, Louis et vous, des autres jeunes gens. Vous avez reçu la prêtrise d'Aaron. C'est un don sacré. Et il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas pleinement. Ce soir, je vais vous aider à voir comment vous pouvez découvrir vous-même la grandeur de la prêtrise d'Aaron. Lorsque Dieu vous confie sa prêtrise sacrée, il fait preuve d'une grande confiance en vous. Il sait qu'il peut compter sur vous, que vous utiliserez la prêtrise pour servir les autres, exactement comme il a fait confiance à d'autres jeunes gens pour accomplir une partie essentielle de son œuvre. Par exemple, le monde n'aurait pas le témoignage puissant de Jésus-Christ, apporté par le Livre de Mormon, sans deux jeunes gens à qui Dieu faisait confiance. Mormon, le prophète qui a compilé ces annales sacrées, n'avait que 10 ans lorsqu'il a reçu la tâche d'observer et plus tard d'écrire l'histoire de son peuple. À l'âge de 15 ans, il a été visité par le Seigneur et a connu et goûté la bonté de Jésus. Le Livre de Mormon a été traduit et publié par Joseph Smith, qui a été appelé à sa grande œuvre à l'âge de 14 ans, lorsqu'il a reçu la visite de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Le président Monson a dit, « Beaucoup est attendu de vous. Comme une trompette, la voix du Seigneur nous appelle, vous, moi et les détenteurs de la prêtrise de partout. » C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Pour vous aider à répondre à cet appel urgent, l'Église lance un nouveau programme du devoir envers Dieu, comme le président Eric l'a annoncé tout à l'heure. Ce programme m'enthousiasme. La documentation sera envoyée à vos évêques et présidents de branche au début juin. Vous devrez commencer à l'utiliser dès que vous la recevrez. Diacres, instructeurs et prêtres, vous participerez à des activités qui vous aideront à édifier votre force spirituelle et à apprendre et à remplir vos devoirs de la prêtrise. Chaque activité suit ce modèle simple. Tout d'abord, vous apprenez un principe de l'Évangile ou un devoir de la prêtrise. Vous découvrez ce que notre Père Céleste veut que vous fassiez. Et vous vous efforcez d'acquérir un témoignage spirituel de son importance. Ensuite, vous faites des projets pour agir selon ce que vous avez appris. On vous recommande de baser vos projets sur vos propres besoins, sur votre situation et sur les occasions que vous avez de servir autrui. Il s'agit là d'une chance merveilleuse d'assumer la responsabilité de votre propre développement et d'acquérir l'autonomie spirituelle. Enfin, vous communiquez aux autres ce que vous apprenez et vivez. Ce faisant, vous renforcerez votre témoignage et édifierez la foi des gens qui vous entourent. Vous améliorerez votre capacité de parler de l'Évangile aux autres. Je suis reconnaissant à un jeune homme qui m'a raconté l'expérience suivante. Il avait été chargé avec un autre détenteur de la prêtrise d'Aaron d'apporter la Sainte Cène à un homme très malade, qui ne pouvait quitter son domicile. Ils sont allés chez lui, sans savoir que ses traitements médicaux récents lui interdisaient toute nourriture, même un morceau de pain de la Sainte Cène. Après avoir béni le pain, le jeune homme a présenté la Sainte Cène au malade. Celui-ci a pris un morceau du pain béni, a attendu un instant, puis l'a tenu contre ses lèvres. Le jeune homme a déclaré qu'en voyant ce frère fidèle exprimer son respect pour la Sainte Cène, il avait eu l'impression qu'il le voyait embrasser les pieds du Sauveur, et il voyait bien qu'il l'aimait. Ce jour-là, ce jeune homme a compris la signification de la Sainte Cène d'une façon inoubliable. Vous vivrez des expériences sacrées, tout comme ce jeune homme. Vos parents, vos dirigeants et les membres de votre collège jouent un rôle important dans le programme du devoir envers Dieu. Les réunions du dimanche de votre collège vous offriront des occasions régulières d'apprendre, d'agir et de communiquer. Le nouveau programme du devoir envers Dieu vous guidera dans votre parcours pour accomplir votre devoir envers Dieu et pour découvrir la grandeur de la prêtrise d'Aaron. L'année dernière, j'ai fait un voyage qui a changé à jamais la façon dont je vous vois, vous et la prêtrise d'Aaron. Je suis enthousiasmé à l'idée que vous allez découvrir par vous-même ce que j'ai découvert. Vous apprendrez pourquoi la prêtrise d'Aaron est si importante dans votre vie et combien elle est vitale pour l'Église. Vous comprendrez pourquoi on l'appelle l'un des grands titres de la prêtrise. Vous comprendrez mieux le sens des clés de la prêtrise, du ministère d'ange et de l'évangile préparatoire. Satan aimerait que vous pensiez que vous êtes trop jeune ou que vous êtes trop peu nombreux pour faire quelque chose d'important avec la prêtrise d'Aaron. Rien de cela n'est vrai. Les paroles que Dieu a adressées à Moïse s'adressent à vous aujourd'hui. Voici, tu es mon fils et j'ai une œuvre pour toi. Il vous a donné son pouvoir pour faire de grandes choses. En accomplissant votre devoir envers Dieu, vous fortifierez votre famille et serez une bénédiction pour elle. C'est votre plus grand devoir de la prêtrise. Écoutez une mère décrire l'influence que son fils a sur sa famille. Dans notre foyer, Léo détient la prêtrise, et c'est une immense bénédiction. Il donne le bon exemple à ses frères et sœurs. Il veille à ce qu'il prie toujours. Il distribue la Sainte Cène le dimanche. Son petit frère le voit. Il aide pour la prière en famille. Je sais qu'en grandissant, il continuera à être une bénédiction pour nous, pour baptiser son petit frère. C'est un don et un réconfort pour nous. En accomplissant votre devoir envers Dieu, vous irez vers vos amis qui ne sont pas de notre religion et vous les aiderez à se préparer à devenir membres de l'Église. Comme un vrai frère, vous veillerez sur eux et les fortifierez. Vous serez les premiers à secourir d'autres jeunes gens qui se sont égarés. En accomplissant votre devoir envers Dieu, vous serez en tout temps et en toutes circonstances une force bénéfique. Votre exemple de justice et votre service fidèle dans la prêtrise seront une façon très marquante d'inviter tous les gens qui vous connaissent à aller au Christ. À l'époque la plus critique pour eux, les Néphites se sont adressés à un jeune homme, Mormon, pour qu'il les dirige et les inspire. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous pour que vous soyez une grande force pour l'Église et une force bénéfique sur la terre. C'est ce que le Seigneur attend. Je témoigne que vous sentirez votre cœur changer en devenant un homme de la prêtrise fidèle. Vous chercherez à être parfaitement pur et digne de préparer, de bénir et de distribuer la Sainte Cène. Vous traiterez chaque jeune fille avec gentillesse et respect. Vous honorerez vos parents. Vous éviterez d'offenser l'esprit par vos pensées, vos paroles ou vos actes. Vous parviendrez à la connaissance du Seigneur que vous servez et vous vous efforcerez toujours de lui ressembler. Je témoigne que votre service fidèle dans la prêtrise d'Aaron changera la vie des gens que vous servez. Il y a des gens qui ont besoin de votre service dans la prêtrise. Votre famille a besoin de vous. Votre collège a besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Il y a urgence à accomplir votre devoir envers Dieu. Je suis sûr que vous le ferez. Par une froide matinée, il y a quelques semaines, je faisais du jogging le long du Tage, à Lisbonne, au Portugal. Je suis arrivé près d'un monument dédié aux explorateurs portugais des siècles passés. Je me suis arrêté au moment où le soleil se levait et nous inondait de sa chaude lumière, l'imposant monument et moi. En observant les visages déterminés des explorateurs regardant au-delà des eaux, je me suis senti inspiré. Voilà des hommes qui étaient prêts à faire des choses que très peu avaient faites. Ils quittaient un monde familier et confortable pour partir courageusement sur l'océan, vers l'inconnu, afin de découvrir de nouvelles terres. Ils ont changé le monde. Quand je pense à ce monument, aux courageux explorateurs, c'est vous que je vois. Je vous vois engagé dans un voyage personnel que peu de gens dans le monde actuel choisissent d'entreprendre. Je vous vois accomplissant votre devoir envers Dieu. Je prie pour que nous comprenions tous la grandeur de la prêtrise d'Aaron et fassions confiance, comme Dieu, aux frères qui la détiennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Gloire au Dieu Tout-Puissant ». Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Dieter F. Urdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, j'aurai le plaisir de vous adresser un discours.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel
Mes chers frères, c'est merveilleux d'être avec vous et de ressentir votre esprit. Dans les années 1960, un professeur de l'université de Stanford a entrepris une expérience modeste visant à tester la volonté d'enfants de 4 ans. Il a mis devant eux une grosse guimauve et leur a dit qu'ils pouvaient la manger tout de suite ou s'ils attendaient 15 minutes, en avoir deux. Puis, il a laissé les enfants tout seuls et, de derrière un miroir sans teint, il a regardé ce qui se passait. Certains des enfants ont mangé tout de suite la guimauve, D'autres n'ont pu attendre que quelques minutes avant de succomber à la tentation. Il n'y en a eu que 30% qui ont pu attendre. C'était une expérience modérément intéressante et le professeur est passé à d'autres domaines de la recherche car, selon ses propres termes, il n'y a qu'un nombre limité de choses que l'on peut faire avec des enfants qui essaient de ne pas manger de guimauve. Mais au fil du temps, il a suivi l'évolution des enfants et a commencé à remarquer un rapprochement intéressant. Les enfants qui n'avaient pas pu attendre ont eu plus tard des difficultés et plus de problèmes de comportement, alors que ceux qui avaient attendu étaient plus positifs et mieux motivés, avaient de meilleures notes et de meilleurs revenus et des relations plus saines. Ceux qui avaient commencé comme une simple expérience sur des enfants et des guimauves est devenu une étude fondatrice suggérant que la capacité d'attendre, d'être patient, était un trait de caractère crucial qui pouvait annoncer une réussite ultérieure dans la vie. Attendre peut être difficile. Les enfants le savent, les adultes aussi. Nous vivons dans un monde qui offre restauration rapide, messagerie instantanée, films à la demande et réponses immédiates aux questions les plus insignifiantes ou les plus profondes. Nous n'aimons pas attendre. Il y a même des gens dont la tension sanguine monte quand leur file à la caisse de l'épicerie avance moins vite que celle d'à côté. La patience, la capacité de mettre nos désirs sur pause pour un moment, est une vertu rare et précieuse. Nous voulons ce que nous voulons, et nous le voulons maintenant. Alors la simple idée de patience peut paraître désagréable et agaçante. Pourtant, sans la patience, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas devenir parfaits. En effet, la patience est un processus purificateur qui affine l'intelligence, concentre les actions, rend plus heureux et procure un espoir de paix. Nous, les parents, nous savons combien il serait mal avisé d'accorder à nos enfants tout ce qu'ils désirent. Mais les enfants ne sont pas les seuls qui se gâtent quand on leur accorde immédiatement ce qui leur fait plaisir. Notre Père Céleste sait ce que les bons parents comprennent avec le temps. Pour que les enfants mûrissent et atteignent leur potentiel, ils doivent apprendre à attendre. Quand j'avais 10 ans, ma famille s'est réfugiée à l'étranger. J'avais toujours été un bon élève, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous arrivions en Allemagne de l'Ouest. Là, mon expérience éducative a été nettement différente. La géographie qu'on nous enseignait dans mon école était nouvelle pour moi. L'histoire aussi était très différente. Avant, j'apprenais le russe comme deuxième langue. À présent, c'était l'anglais. C'était difficile pour moi. Il y avait des moments où je croyais vraiment que ma langue n'était tout simplement pas faite pour parler l'anglais. Parce qu'il y avait tant de choses dans le programme qui étaient nouvelles et étranges pour moi, je suis resté à la traîne. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si je n'étais pas simplement pas assez intelligent pour aller à l'école. Heureusement, j'ai eu un instituteur qui m'a enseigné à être patient. Il m'a appris que le travail régulier et soutenu, la persévérance patiente, m'aiderait à apprendre. Avec le temps, des disciplines qui étaient difficiles sont devenues plus claires, même l'anglais. Petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte qu'en m'appliquant régulièrement, je pouvais apprendre. Cela ne s'est pas produit tout de suite, mais avec de la patience, c'est arrivé. Cette expérience m'a appris que la patience était bien plus que simplement attendre que quelque chose arrive. La patience demandait de travailler activement à des buts de valeur et de ne pas se décourager quand les résultats n'arrivaient pas tout de suite ou sans effort. Voici un concept important. La patience n'est pas une résignation passive, ni une inaction causée par nos peurs. Être patient, c'est attendre et persévérer de manière active. Cela veut dire nous tenir à quelque chose et à faire tout ce que nous pouvons en travaillant, en espérant, en exerçant notre foi, en supportant les vicissitudes avec courage, même quand les désirs de notre cœur sont retardés. La patience, ce n'est pas simplement persévérer. C'est bien persévérer. L'impatience, par contre, est un symptôme d'égoïsme. C'est un trait de caractère de l'égocentrique. Elle vient d'un état qui n'est que trop répandu, appelé syndrome du centre de l'univers, qui amène les gens à croire que tout tourne autour d'eux et qu'ils sont la vedette sur la grande scène de la vie où tous les autres n'ont que des seconds rôles. Comme cela est différent, mes frères, de l'idéal que Jésus nous a fixé à nous, détenteurs de la prêtrise. En tant que détenteurs de la prêtrise et représentants de Jésus-Christ, nous devons servir les autres d'une manière conforme à son exemple. Ce n'est pas sans raison que presque toutes les leçons sur la direction par la prêtrise conduisent à un moment donné à la section 121 des doctrines et alliances. En quelques versets, le Seigneur nous donne une leçon modèle sur la direction par la prêtrise. Je cite, « Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient exercer en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur et l'amour et par l'amour sincère. » Les traits de caractère et les pratiques décrits dans ces versets constituent la base de la patience selon Dieu et sont inséparablement liés à un service de prêtrise et à un service patriarcal efficace. Ces qualités vous donneront de la force et de la sagesse pour magnifier vos appels, pour prêcher l'Évangile, pour intégrer les membres du collège et pour rendre le plus important des services de la prêtrise qui se passe en fait entre les murs de votre maison. Souvenons-nous qu'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a confié la prêtrise, c'est de nous aider à nous préparer à des bénédictions éternelles en raffinant notre nature par la patience que requiert le service à la prêtrise. De même que le Seigneur est patient avec nous, de même, soyons patients avec les personnes que nous servons. Comprenons que, comme nous, elles sont imparfaites. Comme nous, elles font des erreurs. Comme nous, elles veulent qu'on leur accorde le bénéfice du doute. N'abandonnez jamais personne. N'abandonnez jamais avec personne. Ce qui signifie aussi, ne renoncez pas à vous-même. Je crois que chacun de nous peut, à un moment ou à un autre, s'identifier au serviteur de la parabole du Christ qui devait de l'argent au roi et le supplia en disant « Seigneur, aie patience envers moi ». Les enfants d'Israël ont attendu 40 ans dans le désert avant d'avoir l'autorisation d'entrer en terre promise. Jacob a attendu Rachel 7 longues années. Les Juifs ont attendu 70 ans à Babylone avant de pouvoir retourner reconstruire le temple. Les Néphites ont attendu un signe de la naissance du Christ tout en sachant que si le signe n'arrivait pas, ils périraient. Les épreuves de Joseph Smith l'ont poussé à se demander, lui, le prophète de Dieu, combien de temps? À chaque fois, notre Père Céleste, avait une raison de faire patienter ses enfants. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous appelés à attendre. Nous attendons des réponses à nos prières, nous attendons des choses qui, sur l'instant, nous apparaissent si justes et si bonnes que nous ne pouvons imaginer pourquoi notre Père Céleste retarderait la réponse. Je me souviens de l'époque où je me préparais à ma formation de pilote de chasse. Nous passions une grande partie de notre entraînement militaire préliminaire à faire de l'exercice physique. Je ne sais toujours pas exactement pourquoi on considérait que courir sans fin était une préparation si essentielle à la formation de pilote. Cependant, on courait, et on courait encore. Tandis que je courais, j'ai remarqué quelque chose qui franchement m'a perturbé. J'étais continuellement dépassé par des hommes qui fumaient, buvaient et faisaient toutes sortes de choses contraires à l'Évangile, et en particulier contraires à la parole de sagesse. Je me souviens avoir pensé, « Et là, ne suis-je pas censé pouvoir courir sans me fatiguer ?» Mais j'étais fatigué. Et j'étais dépassé par des gens qui ne suivaient absolument pas la parole de sagesse. Je reconnais que sur le moment, ça m'a dérangé. Je me demandais si la promesse était vraie ou pas. La réponse n'est pas venue tout de suite. Mais finalement, j'ai appris que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas aussi vite ni de la façon que nous espérons, mais qu'elles s'accomplissent au moment qu'il a choisi et à sa façon. Des années plus tard, j'ai pu constater clairement les bénédictions temporelles que reçoivent les personnes qui suivent la parole de sagesse, en plus des bénédictions spirituelles qui découlent immédiatement de l'obéissance à toute loi de Dieu. En repensant au passé, je me rends compte que, même si elles ne sont pas toujours tenues rapidement, les promesses du Seigneur sont toujours sûres. Brigham Young a enseigné que, quand il se produisait des choses qu'il ne comprenait pas complètement, il demandait au Seigneur de lui accorder la patience d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse comprendre par lui-même. Puis Brigham Young continuait de prier jusqu'à ce qu'il comprenne. Nous devons apprendre que dans le plan du Seigneur, notre compréhension vient ligne sur ligne, précepte sur précepte. En bref, la connaissance et la compréhension s'obtiennent au prix de la patience. Il arrivera souvent que nous ne comprendrons les vallées profondes de notre présent qu'en nous retournant pour les contempler une fois que nous avons atteint les sommets de nos expériences à venir. Souvent, nous ne pouvons voir la main du Seigneur dans notre vie que longtemps après que nos expériences sont terminées. Les moments les plus difficiles de notre vie sont souvent les pierres indispensables au fondement de notre personnalité et qui vont paver le chemin vers des possibilités, notre compréhension et notre bonheur futur. La patience est un attribut divin qui peut guérir les âmes, ouvrir des trésors de connaissances et transformer les hommes et les femmes en saints et en anges. La patience est vraiment un fruit de l'esprit. Être patient, c'est se tenir à quelque chose jusqu'à la fin. C'est reporter à plus tard les satisfactions immédiates pour des bénédictions futures, réfréner sa colère et retenir les paroles méchantes, résister au mal, même quand il semble apporter la richesse aux autres. Être patient, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer et y faire face avec courage, grâce et foi. C'est être disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. En fin de compte, être patient, c'est être ferme, constant et immuable à garder les commandements du Seigneur chaque heure de chaque jour, même quand c'est difficile. Comme l'a dit Jean le Révélateur, c'est ici la patience des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La patience est un processus qui amène la perfection. Le Sauveur lui-même a dit, « Par votre patience, vous possédez votre âme. » Ou, pour utiliser une autre traduction du texte grec, « Par votre patience, vous acquérez la maîtrise de votre âme. » Être patient, c'est demeurer dans la foi, sachant que parfois, c'est l'attente, non le fait de recevoir, qui nous fait progresser le plus. C'était vrai du temps du Sauveur. C'est encore vrai aujourd'hui, car il nous est commandé en ces derniers jours de persévérer avec patience jusqu'à ce que vous soyez rendus parfaits. Pour paraphraser le psalmiste d'autrefois, si nous mettons en l'Éternel notre espérance, il s'inclinera vers nous. Il écoutera nos supplications. Il nous retirera de la fosse, de la destruction, et dressera nos pieds sur le roc. Il mettra un nouveau chant dans notre bouche, et nous louerons notre Dieu. Beaucoup autour de nous le verront, et ils placeront leur confiance dans le Seigneur. Mes chers frères, l'exercice de la patience se résume à ceci. Observer les commandements. Avoir confiance en Dieu, notre Père Céleste. Le servir avec humilité et un amour semblable à celui du Christ. Faire preuve de foi et d'espérance au Sauveur et ne jamais abandonner. Les leçons que nous retirerons de notre patience formeront notre caractère, élèveront notre vie et augmenteront notre bonheur. Elles nous aideront à devenir de dignes détenteurs de la prêtrise et des disciples fidèles de notre Maître Jésus-Christ. Je prie pour que la patience devienne notre caractéristique fondamentale. À nous qui sommes détenteurs de la prêtrise du Dieu Tout-Puissant, pour que nous fassions courageusement confiance aux promesses du Seigneur et à son calendrier, que nous agissions envers les autres avec la patience et la compassion que nous souhaitons pour nous-mêmes, et que nous persévérions avec patience jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Mes frères, je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Je suis profondément touché parce que je sais de votre service de la prêtrise. Ce soir, je vais vous parler de la diligence au service du Seigneur. De récentes expériences m'ont amené à faire ce choix. L'une a été mon étude attentive du remarquable nouveau livret de la prêtrise d'Aaron. Il s'intitule « Devoir envers Dieu ». Alors que je le lisais et que je méditais sur ce qu'on attend que les jeunes gens fassent ou deviennent, je me suis rendu compte que cela décrivait ce que Brigham Young avait promis aux détenteurs de la prêtrise diligents durant toute leur vie. Je cite « Quelqu'un qui a une part dans la prêtrise et reste fidèle à son appel, qui prend constamment plaisir à faire tout ce que Dieu exige de lui et continue sa vie durant à accomplir tous les devoirs, s'assurera non seulement le privilège de recevoir, mais la connaissance quant à la manière de recevoir les choses de Dieu, de sorte qu'il connaîtra constamment la volonté de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai vu un nouveau diacre débuter sur ce chemin de la diligence. Son père m'a montré un schéma que son fils avait fait et qui comprenait chaque rang de la chapelle, un numéro pour chaque diacre ayant la tâche de distribuer et le déplacement de chacun dans la salle pour distribuer la Sainte Cène aux membres. Son père et moi avons souri en pensant à ce garçon qui, sans qu'on le lui ait demandé, avait fait un plan pour être sûr qu'il réussirait dans son service de prêtrise. J'ai reconnu dans sa diligence le modèle du nouveau livret du devoir envers Dieu, qui est d'apprendre ce que le Seigneur attend de nous, d'élaborer un projet pour l'accomplir, de réaliser ce projet avec diligence, et ensuite de faire savoir comment nous ou d'autres personnes ont été bénies par cette expérience. Le diacre avait fait ce schéma pour faire ce à quoi le Seigneur l'avait appelé. À l'aube de son service de prêtrise, le Seigneur lui enseignait de prendre constamment plaisir à faire ce que Dieu exige de lui. L'autre expérience qui m'a conduit à parler ce soir de la diligence a été d'observer un homme approchant de la fin de son service de prêtrise ici-bas. Il avait été deux fois évêque. Il était jeune quand il a été appelé évêque pour la première fois, des années avant que je le rencontre. Maintenant, il était âgé et relevé pour la deuxième fois de son appel d'évêque. Ses handicaps physiques de plus en plus lourds rendaient difficile tout service de prêtrise. Mais il avait un plan pour agir avec diligence. Chaque dimanche où il pouvait venir à l'église, il s'asseyait dans la rangée la plus près de la porte, la plus utilisée pour la réunion de Sainte-Cène. Il venait tôt pour être sûr d'avoir une place. Chaque personne qui arrivait pouvait voir son regard empreint d'amour et accueillant, comme elle le remarquait auparavant quand il était assis sur l'estrade quand il était évêque. Son influence chaleureuse nous élevait parce que nous savions quelque peu ce qui lui en coûtait de nous servir. Son appel d'évêque avait pris fin. Son service de prêtrise n'était pas achevé. Il y a tant de grands exemples de détenteurs de la prêtrise au service de Dieu. Ce soir, je vais vous parler de ce que j'ai appris à leur sujet. D'abord, ils apprennent à connaître qui ils servent et dans quel but. Quand cette connaissance pénètre leur cœur, cela fait toute la différence. Je vais d'abord m'adresser directement aux jeunes gens de la prêtrise d'Aaron. Vous deviendrez plus diligents en sentant toute la confiance que Dieu vous accorde. Dans le livret du devoir envers Dieu, un message de la première présidence vous est destiné. Je cite, « Notre Père Céleste a une grande confiance en toi et a une mission importante à te faire accomplir. Il t'aidera lorsque tu t'adresseras à lui dans la prière, écoutera les inspirations de l'Esprit, obéira aux commandements et respectera les alliances que tu as contractées. Jean-Baptiste est revenu sur terre pour rétablir la prêtrise que vous détenez. Il détenait les clés de la prêtrise d'Aaron. C'est Jean que Jésus est venu trouver pour être baptisé. Jean savait qui l'avait appelé. Il dit au Seigneur, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Quand le Seigneur l'a envoyé ordonner Joseph Smith et Oliver Cowdery en mai 1829, Jean savait que la prêtrise d'Aaron détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentance et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Il savait qui l'avait appelé et dans quel but glorieux il avait été appelé. Vos appels de la prêtrise vous permettent d'offrir la Sainte Cène du Seigneur aux membres actuels de son Église. C'est le pouvoir que le Seigneur accorda aux 12 apôtres pendant son ministère. Il le fit à nouveau après sa résurrection, quand il appela 12 disciples pour diriger son Église. Comme le décrit le livre de Mormon, le Seigneur lui-même a fourni les emblèmes de son sacrifice infini et les a bénis. Et les a distribués aux gens. Pensez à lui et à l'honneur qu'il vous fait quand vous accomplissez votre service de prêtrise. En vous souvenant de lui, vous serez décidé à accomplir autant que possible cette ordonnance, aussi bien et aussi fidèlement qu'il l'a fait. Cela peut devenir une façon de vivre Tu augmenteras votre diligence dans tous les services de la prêtrise auxquels le Seigneur vous prépare pour vous y appeler. Cette détermination vous préparera à recevoir la prêtrise de Melchisédek, anciennement appelée la prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Je vais maintenant m'adresser à tous ceux qui ont eu l'honneur d'être appelés à servir dans la prêtrise de Melchisédek. Comme la prêtrise d'Aaron, la prêtrise de Melchisédek est plus que la mission de faire ce que le Seigneur ferait. C'est une invitation à devenir tel qu'il est. Voici sa promesse. Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai parlé et magnifient leur appel, sont sanctifiés par l'Esprit à tel point que leur corps est renouvelé. Et ils deviennent les fils de Moïse et d'Aaron, la postérité d'Abraham, l'Église et le royaume, et les élus de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur, car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit, car celui qui me reçoit, reçoit mon Père, et celui qui reçoit mon Père, reçoit le royaume de mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a lui sera donné. C'est la manière selon laquelle chaque détenteur de la prêtrise est élevé vers cette bénédiction glorieuse. L'un des passages des Écritures, le Seigneur nous en fait part, se trouve dans la section 107 des Doctrines et Alliances. Je cite, « C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Le paresseux ne sera pas considéré comme digne de demeurer, et celui qui ne s'instruit pas de son devoir et se montre déméritant ne sera pas considéré comme digne de demeurer. » J'ai dit « Amen ». Nous devons nous instruire du devoir auquel le Seigneur nous a appelés, puis nous devons agir en toute diligence sans jamais être paresseux. La manière est simple, mais elle n'est pas facile à suivre. Nous nous laissons si facilement distraire. Étudier les nouvelles du jour peut paraître plus intéressant que l'étude du manuel de leçon de la prêtrise. S'asseoir et se reposer peut être plus attrayant que de prendre des rendez-vous pour visiter des personnes qui ont besoin de notre service de la prêtrise. Quand je me vois éloigné de mes devoirs de la prêtrise par d'autres intérêts, et quand mon corps réclame du repos, je me lance ce cri de ralliement. Souviens-toi de lui. Le Seigneur est notre exemple parfait de diligence dans le service de la prêtrise. Il est notre capitaine. Il nous a appelés. Il marche devant nous. Il nous a choisis pour le suivre et pour emmener d'autres personnes avec nous. Ce soir, je me souviens de lui et cela me touche. C'est samedi soir, la veille de Pâques, où nous nous souvenons de sa résurrection. Je me souviens de son exemple les jours précédents. Par amour pour son Père et pour nous, il a accepté de souffrir au-delà de ce qu'un homme mortel pourrait supporter. Il nous a dit ce que ce sacrifice infini a requis de lui. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère, mais je n'ai pas non plus voulu me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu, et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Au calvaire, sur la croix, le Seigneur a annoncé, « Tout est accompli. » Puis son esprit a quitté son corps. Ses restes mortels ont été placés avec amour dans une tombe. Il nous a enseigné une leçon par ce qu'il a fait pendant 3 jours dans le monde des esprits avant sa résurrection, et dont je me souviens quand je suis tenté de penser mériter du repos après quelques tâches difficiles à son service. L'exemple du Sauveur me donne le courage d'avancer. Sa tâche dans la condition mortelle était terminée, mais il est entré dans le monde des esprits, déterminé à continuer son œuvre glorieuse de salut des âmes. Il a organisé l'action d'esprit fidèle pour sauver les âmes qui pouvaient encore avoir part à la grâce rendue possible par son sacrifice expiatoire. Souvenez-vous de ses paroles dans la section 138 des Doctrines et Alliances. Mais voici, parmi les justes, il organisa ses forces et nomma des messagers revêtus de pouvoir et d'autorité et les chargea d'aller porter la lumière de l'Évangile à ceux qui étaient dans les ténèbres, à savoir tous les esprits des hommes. Et c'est ainsi que l'Évangile fut prêché aux morts. Et les messagers choisis allèrent annoncer le jour de grâce du Seigneur et proclamer la liberté aux captifs qui étaient liés, oui, à tous ceux qui se repentiraient de leurs péchés et recevraient l'Évangile. Chaque fois que nous nous souvenons de lui, il est plus facile de résister à la tentation de désirer nous reposer de nos travaux de la prêtrise. Nous nous sommes certainement souvenus de lui aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici, pour apprendre nos devoirs, décidés à faire ce que nous avons fait alliance de faire, en toute diligence. Et grâce à son exemple, nous persévérerons jusqu'à ce que nous ayons fini les tâches qu'il nous a confiées. Et nous resterons engagés à faire la volonté de son Père, pour toujours, comme il l'a été et comme il l'est. C'est l'Église. Nous sommes dans l'Église du Seigneur. Il nous a appelés et nous a fait confiance, bien que sachant quelles faiblesses nous avions. Il savait quelles épreuves nous aurions affrontées. En servant fidèlement et grâce à son expiation, nous pouvons réussir à vouloir ce qu'il veut et être ce que nous devons être pour bénir les personnes que nous servons pour lui. Si nous le servons suffisamment longtemps, avec diligence, nous serons changés. Nous pouvons devenir davantage semblables à lui. J'ai vu des preuves de ce miracle dans la vie de ses serviteurs. Je l'ai vu il y a quelques semaines dans le salon d'un fidèle détenteur de la prêtrise. Je l'ai connu diacre, père, évêque et membre d'une présence de pieux. Pendant des décennies, je l'ai vu servir les enfants de Dieu avec diligence par sa prêtrise. Il était entouré de sa famille dans la salle de séjour, vêtu d'un costume et d'une cravate. Il souriait. J'étais surpris, car j'étais là parce que j'avais appris qu'il suivait un traitement médical douloureux qui ne l'avait pas encore guéri. Il m'a salué comme il avait certainement salué des centaines d'autres visiteurs pendant une vie de service de la prêtrise. J'étais venu pour l'aider dans ses épreuves, mais comme cela arrive si souvent dans le service de la prêtrise, c'est moi qui ai reçu de l'aide et qui ai appris. Nous nous sommes assis et nous avons discuté agréablement. Il m'a raconté comment son père avait soigné ma mère quand elle allait mourir. Je ne le savais pas. Alors je me suis rendu compte que son père lui avait appris pendant son enfance comment porter secours. À cette pensée, j'ai été reconnaissant pour les fois où j'avais emmené mes garçons à des visites de prêtrise pour bénir et réconforter. Au bout de quelques minutes, il a demandé doucement, « Pourrais-je vous demander de me donner une bénédiction ?» Son président de pieux précédent, avec qui il avait servi pendant des années, a oint sa tête avec de l'huile consacrée par le pouvoir de la prêtrise de Melchisédek. Quand j'ai scellé la bénédiction en faisant des promesses, le Saint-Esprit m'a fait connaître un peu de ce que le Seigneur avait fait pour ce fidèle détenteur de la prêtrise. Lavé de ses péchés, il était pur. Sa nature avait changé au point de vouloir ce que le Seigneur voulait. Il n'avait pas peur de la mort. Le désir de son cœur était de vivre pour rendre service à sa famille et aux autres enfants de notre Père Céleste qui avaient besoin de lui. Je suis ressorti dans la nuit, reconnaissant d'avoir été témoin de la gentillesse du Seigneur envers ses serviteurs de la prêtrise diligente. Il change leur cœur afin qu'ils veuillent ce qu'il veut et qu'ils agissent comme il le ferait. Je conclus maintenant par ce conseil aux serviteurs de la prêtrise du Seigneur. Méditez profondément et diligemment sur les Écritures et les paroles des prophètes vivants. Persévérez dans la prière afin que le Saint-Esprit vous révèle la nature de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé. Priez pour que l'Esprit vous montre ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Planifiez de le faire. Promettez-lui d'obéir. Agissez avec détermination jusqu'à ce que vous ayez fait ce qu'il a demandé. Puis priez pour le remercier de l'occasion de le servir et pour savoir ce que vous pouvez faire ensuite. Je témoigne que notre Père Céleste et Jésus-Christ vivent. Ils sont des êtres ressuscités, glorifiés, qui nous aiment et qui veillent sur nous. Le prophète Joseph Smith a reçu de messagers célestes les clés de la prêtrise. Elles ont été transmises en une succession ininterrompue jusqu'au président Monson. Chaque apôtre vivant les détient. Je vous donne ma bénédiction pour que l'Esprit vous fasse ressentir la grandeur du dépôt et des promesses qui vous ont été faites. Quand on vous a ordonné serviteur de la prêtrise dans l'Église du Seigneur, la véritable Église du Seigneur, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous vous rappelons que l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h. La session du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le Cœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young de la belle musique qu'il a interprétée et les frères qui se sont adressés à nous ce soir. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur chantera « The Iron Rod ». Ensuite, Michael John New T. des 70 fera la prière de clôture.
Before saying a word,
avant de dire quoi que ce soit,
you have attended one of the finest priesthood, general priesthood leadership meetings and general meetings that I've ever
attended. Je voudrais parler d'une réunion de formation, une des meilleures que j'ai jamais assisté pour les dirigeants. Mes frères qui êtes ici dans le centre de conférence de Salt Lake City, c'est vraiment inspirant de vous voir. C'est extraordinaire de penser que dans des milliers d'églises de par le monde, d'autres détenteurs de la prêtrise de Dieu comme vous suivent cette émission diffusée par cette élite. Vous êtes de différentes nationalités, vous parlez de nombreuses langues, mais un point nous unit. Nous avons été chargés de détenir la prêtrise et d'agir au nom de Dieu. Nous avons un dépôt sacré. On attend beaucoup de vous, de nous. L'un de mes souvenirs les plus vifs est celui d'une réunion de prêtrise à laquelle j'ai assisté quand je venais d'être ordonné diacre et où j'ai chanté le cantique d'ouverture « Que tous les fils de Dieu dotés de la prêtrise » Ce soir, je fais écho à l'esprit de ce cantique spécial et vous dis, venez tous, fils de Dieu, dotés de la prêtrise. Réfléchissons à nos appels et à nos responsabilités et suivons Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a 20 ans, j'ai assisté à une réunion de Sainte-Seine où les enfants ont illustré le thème « J'appartiens à l'Église Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Ces garçons et ces fillettes ont montré qu'ils étaient formés à servir le Seigneur et autrui. La musique était magnifique, les récitations habilement déclamées, et l'Esprit envoyé des cieux. L'un de mes petits-fils, qui avait 11 ans à l'époque, avait pour tâche dans le programme de parler de la première vision. Après, lorsqu'il a rejoint ses parents et grands-parents, je lui ai dit « Tommy, je pense que tu es presque prêt à être missionnaire. » Il a répondu « Pas encore. J'ai encore beaucoup à apprendre. » Au cours des années qui ont suivi, Tommy a appris grâce à ses parents et à des instructeurs et à des consultants à l'église qui étaient dévoués et consciencieux. Quand il en a eu l'âge, il a reçu un appel en mission. Il l'a rempli de façon très honorable. Jeunes gens, je vous exhorte à vous préparer au service missionnaire. De nombreux outils sont là pour vous aider à prendre les leçons qui vous seront utiles et qui vous aideront à vivre de la manière que vous devez pour être digne. Le livret intitulé « Jeunes, soyez forts », publié sous la direction de la Première Présidence et du Collège des Douze, est l'un de ces outils. Il comporte les principes écrits et tirés des écrits et des enseignements des dirigeants de l'Église et des Écritures, dont l'observation apportera à chacun de nous les bénédictions de notre Père Céleste et l'aide de son Fils. De plus, nous avons les manuels de leçons soigneusement préparés à l'aide de la prière. Les familles ont les soirées familiales où l'on enseigne les principes de la vérité, de l'Évangile. Vous avez presque tous l'occasion d'assister aux cours de séminaires enseignés par des instructeurs dévoués qui ont beaucoup à donner. Commencez à vous préparer au mariage au temple, ainsi qu'à la mission. Les sorties convenables en couple font partie de cette préparation. Dans les cultures où il est permis de sortir en couple, ne le faites pas avant d'avoir 16 ans. Les adolescents n'ont pas tous besoin de sortir en couple. Certains n'en ont même pas envie. Quand vous commencez à sortir en couple, faites-le en groupe ou avec un autre couple. Veillez à ce que vos parents rencontrent les personnes avec qui vous sortez et fassent leur connaissance. Les sorties en couple étant une préparation au mariage, ne sortez qu'avec des personnes qui ont des principes élevés. Veillez à aller des endroits où le cadre est sain et vous ne subirez pas de tentation. Un père plein de sagesse a dit à son fils, « Si tu te trouves un jour dans un endroit où tu ne devrais pas être, un bon conseil pour nous tous. Les serviteurs du Seigneur nous ont toujours conseillé de nous habiller correctement par respect envers notre Père Céleste et envers nous-mêmes. La manière dont vous vous habillez envoie aux autres des messages à votre sujet et influence souvent votre comportement et celui des autres. Habillez-vous de manière à susciter ce qu'il y a de meilleur en vous et chez les gens qui vous entourent. Évitez les extrêmes dans votre tenue vestimentaire et votre présentation, notamment les tatouages et les piercings. Tout le monde a besoin de bons amis. De même que votre cercle d'amis influence beaucoup votre manière de penser et votre comportement, demain vous influencerez les leurs. Si vous avez des valeurs en commun avec vos amis, vous pouvez vous fortifier et vous encourager mutuellement. Traitez tout le monde avec gentillesse et courtoisie. Beaucoup de non-membres sont entrés dans l'Église grâce à des amis qui les ont fait participer aux activités de l'Église. L'adage souvent répété, l'honnêteté est la meilleure stratégie, est toujours aussi vrai. Un jeune saint des derniers jours vit conformément à ce qu'il enseigne et à ce qu'il croit. Il est honnête avec les autres. Il est honnête avec lui-même. Il est honnête avec Dieu. Il est honnête par habitude et par automatisme. Quand il doit prendre une décision difficile, il ne se demande jamais « Que vont penser les autres ?» mais « Que vais-je penser de moi-même ?» Certains seront tentés de ne pas faire honneur à leurs principes personnels d'honnêteté. Je me souviens d'un cours de droit commercial que j'ai suivi à l'université. Il y avait un étudiant qui ne se préparait jamais pour les discussions des cours. Je me demandais, comment va-t-il réussir l'examen de fin d'année? J'ai eu la réponse quand il est entré dans la salle de classe pour l'examen en hiver, par un jour bien froid, les pieds nus dans des sandales. Surpris, je l'ai observé quand l'examen a commencé. Tous ses livres étaient étalés sur le sol. Il a ôté ses sandales et avec les orteils qu'il avait entraînés et préparés avec de la glycérine, a tourné habilement les pages de l'un des livres qu'il avait posé sur le sol et y a regardé
les réponses aux questions de l'examen. Il a eu l'une des meilleures notes de ce cours de droit commercial. Mais le jour des comptes est arrivé. Plus tard, pendant qu'il se préparait pour son examen de fin d'études, pour la première fois, le doyen de sa faculté a annoncé « Cette année, je vais déroger la tradition. L'examen sera oral et non écrit. »
Our favorite train toe expert.
Notre expert aux orteils agiles n'a plus eu qu'à se mordre les doigts de pied et il a raté son examen. Votre manière de parler et vos paroles en disent long sur l'image que vous choisissez de donner. Utilisez un langage qui édifie et qui élève les gens qui vous entourent. Un langage impie, vulgaire ou grossier, et des déplaisanteries déplacées ou douteuses offensent le Seigneur. Ne prenez jamais en vain le nom de Dieu ou de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Notre Père Céleste nous a recommandé de rechercher tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange, tout ce que vous lisez, écoutez ou regardez, laisse son empreinte sur vous. La pornographie est particulièrement dangereuse et engendre la dépendance. Une curiosité pour la pornographie peut devenir une habitude dominatrice et vous amener à de la pornographie plus vulgaire et à la transgression sexuelle. Évitez la pornographie à tout prix. Ne craignez pas de sortir avant la fin d'un film, d'éteindre la télévision ou de changer de station de radio si ce qu'on y présente n'est pas conforme aux principes de votre Père Céleste. En bref, si vous n'êtes pas certain que tel film, tel livre ou telle autre distraction sont convenables, ne les regardez pas, ne les lisez pas, n'y participez pas. L'apôtre Paul a déclaré, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, frères. Il est de notre responsabilité de garder notre temple propre et pur. Les drogues dures, le mauvais usage des médicaments, l'alcool, le café, le thé et le tabac vous détruisent physiquement, mentalement et spirituellement. Toute forme d'alcool est nuisible pour l'esprit et le corps. Le tabac peut vous réduire en esclavage, affaiblir vos poumons et raccourcir votre vie. La musique peut vous aider à vous rapprocher de votre Père Céleste. On peut l'utiliser pour instruire, édifier, inspirer et unir. Cependant, la musique, par son tempo, son rythme, son intensité et ses paroles, peut émousser votre sensibilité spirituelle. Vous ne vous pouvez pas vous permettre de remplir votre esprit de musique indigne. Du fait du caractère extrêmement sacré des rapports sexuels, le Seigneur requiert la maîtrise de soi et la pureté avant le mariage, ainsi que la fidélité totale après le mariage. Lorsque vous sortez avec une personne de l'autre sexe, traitez-la avec respect et attendez d'elle le même respect. Les larmes suivent inévitablement la transgression. David O'Mackay, 9e président de l'Église, a dit « Je vous supplie d'avoir des pensées pures. » Puis il a proclamé cette vérité importante. Chaque action commence par une pensée. Si nous voulons maîtriser nos actions, si nous le voulons, nous devons maîtriser nos pensées. Mes frères, Remplissez votre esprit de bonnes pensées et vos actions seront bonnes. Puisse chacun d'entre vous être en mesure de dire ce vers de Tennyson prononcé par Sir Galahad. J'ai la force de 10 parce que j'ai le cœur pur. Fin de citation. Récemment, l'auteur d'un article sur la sexualité des adolescents résumait ses recherches en disant que la société transmet aux adolescents un message ambigu. La publicité et les médias font passer le message très appuyé que l'activité sexuelle est acceptable et attendue. Des incitations qui étouffent parfois les avertissements des spécialistes et les supplications des parents. Le Seigneur tranche dans tous les messages des médias avec un langage clair et précis quand il nous dit « Soyez purs ». Lorsque vient la tentation, souvenez-vous du sage conseil de l'apôtre Paul qui a déclaré « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Lorsque vous avez été confirmé membre de l'Église, vous avez reçu le droit à la compagnie du Saint-Esprit. Il peut vous aider à faire de bons choix. Lorsque vous avez des difficultés ou que vous êtes tenté, vous ne devez pas vous sentir seul. Souvenez-vous que la prière est le passeport pour le pouvoir spirituel. Si l'un de vous a trébuché en chemin, il existe un moyen de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Notre Sauveur est mort pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Bien que la route soit difficile, la promesse est réelle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ne mettez pas votre vie éternelle en danger. Respectez les commandements de Dieu. Si vous avez péché, plus vite vous commencerez à revenir en arrière, plus vite vous trouverez la douce paix et la joie qui accompagnent le miracle du pardon. Le bonheur s'obtient en vivant comme le Seigneur le veut et en servant Dieu et autrui. Souvent, la force spirituelle s'acquiert en rendant service de manière désintéressée. Il y a quelques années, j'ai visité ce qui s'appelait alors la mission de Californie, où j'ai eu un entretien. Un jeune missionnaire originaire de Géorgie. Je me souviens lui avoir demandé, « Écrivez-vous à vos parents toutes les semaines ?» Il a répondu, « Oh oui, président Monson. » Puis je lui ai demandé, « Est-ce que vous aimez bien recevoir des lettres de vos parents ?» Il n'a pas répondu. Au bout d'un moment, je lui ai demandé, « À quand remonte la dernière lettre que vous avez reçue de vos parents ?» D'une voix tremblante, il a répondu, « Mes parents ne m'ont jamais écrit. Mon père n'est que diacre, et ma mère n'est pas membre de l'Église. Ils ont essayé de me persuader de ne pas partir. Ils m'ont dit que si j'allais en mission, ils ne m'écriraient pas. Que dois-je faire, frère Monson ?» J'ai adressé une prière silencieuse à mon Père Céleste. « Que dois-je dire à ton jeune serviteur qui a tout sacrifié pour te servir ?» Alors l'inspiration m'est venue. Je lui ai dit, « Frère, écrivez à votre mère et à votre père chaque semaine de votre mission. Dites-leur ce que vous faites. Dites-leur combien vous les aimez et rendez-leur votre témoignage. » Il a demandé, « Est-ce qu'ils m'écriront alors ?» J'ai répondu, oui, ils vous écriront. Nous nous sommes quittés, j'ai repris ma route. Des mois plus tard, j'ai assisté à une conférence de pieux dans le sud de la Californie, quand un jeune missionnaire s'est approché de moi et m'a dit, frère Monson, vous vous souvenez de moi? Ça se produit partout où je vais. Je suis le missionnaire qui n'avait pas reçu de lettre de sa mère ni de son père pendant les 9 premiers mois de sa mission. Vous m'avez dit, Écrivez-leur chaque semaine, frère, et ils vous répondront. Et alors, m'a demandé, vous vous souvenez de cette promesse, frère Manson? Oh, j'espérais m'en souvenir. Je m'en souvenais. Je lui ai demandé, avez-vous eu des nouvelles de vos parents? Il a mis la main dans sa poche. Il en a sorti un paquet de lettres tenues par un élastique. Il a tiré une lettre du dessus du paquet et a dit, j'ai eu des nouvelles de mes parents. Écoutez cette lettre de ma mère. Je cite, mon cher garçon, tes lettres nous font grand plaisir. Nous sommes fiers de toi, notre missionnaire. Tu ne devineras jamais. Ton père a été ordonné prêtre. Il se prépare à me baptiser. Je reçois les missionnaires. Et dans un an, nous voulons nous rendre en Californie à la fin de ta mission. Car nous voulons, avec toi, devenir une famille éternelle en allant dans le temple du Seigneur. Le jeune missionnaire m'a demandé, frère Manson, est-ce que notre Père Céleste répond toujours aux prières et accomplit-il toujours les promesses de ses apôtres? Je lui ai répondu, quand on a la foi dont vous avez fait preuve, notre Père Céleste entend les prières et y répond à sa manière. Fin de citation. Des mains et un cœur pur et un esprit bien disposé ont touché les cieux. Une bénédiction envoyée d'en haut a exaucé la prière fervente du cœur humble d'un missionnaire. Mes frères, c'est ma prière que nous vivions de façon à pouvoir de même toucher les cieux et être également bénis. Chacun d'entre nous, au nom de celui qui est le dispensateur de toute bénédiction, à savoir Jésus-Christ. Amen.
Our dear Father in heaven,
notre Père éternel, nous inclinons devant toi humblement à la fin de cette réunion générale de prêtrise et nous t'exprimons notre gratitude pour les prophètes, voyants et révélateurs qui, à nouveau, sont sur cette terre. Nous sommes reconnaissants pour les leçons qui ont été enseignées et les choses qui ont été dites et les témoignages qui ont été rendus depuis ce pupitre aujourd'hui. Et encore plus important pour nous, Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous a parlé, les pensées qu'il a mises dans notre esprit et les sentiments qu'il a mis dans notre cœur. Puissions-nous être fidèles à ces incitations, à ces impressions et aller de l'avant et faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir accomplir les tâches qui nous ont été données. Nous te prions que tu nous aides afin que nous ayons le courage, que nous exercions notre foi afin d'embrasser plus complètement les occasions, les privilèges que nous avons en tant que détenteurs de la prêtrise pour être véritablement des instruments entre tes mains en bénissant la vie de tes enfants, nos frères et sœurs. Nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.